Voilà, merci. Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation à Elodie Durkiewicz et à Denis Barringer à l'Institut Vuillet. Donc, comme Elodie l'a dit, je vais parler de filia et reconnaissance. Je vais proposer une reconstruction de la théorie de la filia dans le cadre d'un parcours qui mène d'Aristote à Hegel. Sur le chemin d'Aristote à Hegel, que j'ai l'intention de suivre, est bidirectionnel. C'est-à-dire, d'une part, j'entends valoriser l'héritage largement aristotélicien présent dans certaines conceptions hégéliennes, mais d'autre part, mon exposé est mené dans une perspective hégélienne. Dès que je me demanderai dans quelle mesure certains concepts de Hegel, en particulier la notion de reconnaissance, peuvent nous aider à expliciter et à construire la théorie aristotélicienne de la filia. Alors, dans la première partie, je vais parler d'Aristote et de la philia. Donc, la philia n'apparaît qu'occasionnellement dans les livres de la politique, tandis que dans l'éthica nicomaque, l'éthica eudème, la rhétorique, c'est là qu'Aristote développe cette notion de la manière la plus articulée. Tout d'abord, il convient de rappeler que la philia dont parle Aristote est un phénomène plus large que ce que nous appelons amitié. Cette dernière est plutôt un cas particulier du champ phénoménal embrassé par la filia. Le fait qu'il ne semble pas y avoir dans les langues modernes de termes uniques embrassant l'ensemble du champ phénoménal de la filia aristotélicien a donné lieu à différentes propositions de traduction allant de l'équivoque amitié à amour. Mais je pense qu'aucun de ces termes n'est réellement adéquat, car il ne saisit qu'un aspect d'un phénomène qui se dit au contraire de plusieurs manières. Donc, l'éventail des phénomènes couverts par la filia est en effet très large et concerne un ensemble d'attitudes et d'affections que l'on retrouve chez les individus d'une même espèce, même dans le cas d'autres espèces animales, et qui implique par exemple les parents et la progéniture, les frères et les sœurs, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les amis, les amants, les partenaires économiques, les concitoyens et ainsi de suite. Parmi les exemples qu'Aristote le cite, il y a le soin parental, le sentiment filial, l'amitié, bien sûr, la fraternité, l'amour, la solidarité, la camaraderie. En ce qui concerne ce phénomène, la théorie de la filia se concentre sur la perspective de l'agent individuel, qui est ici toujours un acteur social, en analysant spécifiquement le type de capacité d'action qu'il doit avoir pour interagir avec d'autres agents. En ce sens, la filia est conçue comme une disposition affective nécessaire à la vie. Il s'agit tout d'abord d'une disposition, d'une exi, c'est-à-dire d'une aptitude à produire de manière répétée des comportements d'un certain type. Les comportements ainsi produits sont précisément ces formes d'interaction accompagnées d'affects qui sont nécessaires à la constitution du lien social. La filia est donc une capacité d'action nécessaire pour participer à une forme de vie socialement organisée. C'est précisément en ce sens que chez Aristote, la question de la nécessité pour la vie de la filia est stratégiquement liée à la doctrine de la nature politique de l'animal humain. L'action politique, en effet, est quelque chose que, en tant qu'agent délibérant, nous apprécierons comme une composante indispensable à l'épanouissement de notre forme de vie sociale. Elle est en tant que telle constitutive de la nature humaine telle que nous la comprenons. Mais pour faire partie d'une polis, d'une cité, pour participer à une forme de vie sociale politiquement organisée, il faut être capable d'agir socialement, c'est-à-dire d'interagir de manière à établir des relations d'un certain type. L'agir social requis ici doit être tels qu'ils permettent d'établir des relations de communauté, de koinonia, dit Aristote, c'est-à-dire la capacité d'agir en tant que membre d'une communauté. En effet, la polis n'est rien d'autre qu'une communauté de communautés. Ainsi, la capacité d'action qui nous dispose à établir des relations de communalité est présupposée par l'anthropologie politique du zoon politicon. Cette référence dans l'éthique à la doctrine du zoon politicon, en ce sens, n'a pas une valeur purement illustrative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de fournir avec la filia un exemple pour confirmer la nature politique de l'homme. Au contraire, à travers l'analyse de la philia, Aristote met en lumière la structure fondamentale du type d'action requis pour être des animaux sociaux. En fait, le koinonein, la forme d'action sociale par laquelle nous établissons des relations de communauté, est coextensive au philein. L'amitié, écrit dans l'Éthique Nicomaque, consiste en une communauté. En ce sens, l'amitié ou la filia, pour mieux dire. Hein. En ce sens, l'analyse de la filia fournie dans le 8e livre de l'Éthique à Nicomaque joue un rôle central dans l'anthropologie aristotélicienne, puisque c'est précisément la doctrine de la filia qui rend explicite la structure de capacité d'action qui permet à l'homme d'établir des relations de koinonia, de communauté, c'est-à-dire des liens sociaux. Mais comment Aristote analyse-t-il la structure de la filia comme agence sociale? C'est ici, on part d'une disposition, d'une exie, qui a une composante naturelle. Elle repose sur les fonctions de notre première nature animale, dont nous sommes dotés de l'enfance, mais qui doit en même temps être développée par l'éducation, dans un processus impliquant la délibération et le choix, est ensuite consolidé sous la forme d'une seconde nature habituelle d'action. Deuxièmement, la filia est caractérisée comme une disposition accompagnée d'affection. En ce sens, la filia n'est pas une affection qui n'aurait autrement qu'un caractère passif, mais est plutôt une capacité d'action accompagnée d'affection, une capacité d'agir en tissant des liens sensibles. Et la troisième exigence fondamentale de la filia est d'être une disposition affective réciproque. C'est-à-dire que l'interaction doit s'accompagner non seulement de l'anticipation de la réaction de l'autre agent, mais aussi de la disposition à réciproquer les affections que les autres manifestent à notre égard. C'est une affection échangeable, une disposition à la réciprocité. Si donc nous revenons à l'idée que le philein est coextensible au koinonein, nous verrons comment l'analyse de la filia comme exie, compris comme disposition à l'action, fait ressortir la structure sentimentale et réciproque du lien social. Cependant, la théorie de la filia ne se limite pas à l'explication de la structure générale de la disposition qui sous-tend notre agence sociale. En effet, Aristote nous présente également, dans les chapitres 2 et 3 du livre 8e de l'Éthique à Nicomaque, une typologie de différentes formes de filia, c'est-à-dire d'action sociale. Cette typologie est dérivée d'une analyse de la structure motivationnelle qui coordonne l'interaction de filia. Et dans ce sens, l'analyse des différentes formes de la disposition de filia comprend une analyse des différentes formes de l'action sociale et de leur motivation. Ici, je vais très vite. Le critère de répartition des différentes formes de filia est donné par le type de connotation que présente l'affection envers l'autre, envers lequel nous interagissons. L'autre envers lequel nous interagissons peut se présenter comme utile, comme agréable ou comme bon. L'autre peut satisfaire nos intérêts, nous apporter du plaisir ou avoir une valeur en soi. Nous pouvons donc distinguer trois motivations par l'interaction. La motivation qu'on pourrait appeler utilitaire, la motivation hédoniste et la motivation morale désintéressée. Alors que dans les deux premiers cas, le partenaire d'interaction vaut comme quelque chose d'autre, en tant que bien instrumental, on pourrait dire, le profit ou le plaisir qu'il nous apporte, dans le troisième cas, nous l'apprécions par sa valeur intrinsèque. Je ne peux m'attarder ici sur, pas m'attarder ici sur les détails de la typification aristotélicienne de l'action sociale, mais il est important de noter cependant que l'analyse aristotélicienne comporte à la fois une composante descriptive et une composante évaluative. Du point de vue descriptif, elle englobe, comme nous l'avons déjà mentionné, un très large éventail d'interactions, allant des formes économiques d'action intéressées aux interactions sexuelles et affectives basées sur le plaisir ou l'amour, aux interactions solidaires entre camarades et citoyens et aux actions moralement motivées au sens strict. D'un point de vue descriptif, toutes ces formes sont des formes de filia à part entière. En même temps, l'analyse d'Aristote a aussi une dimension évaluative, dans la mesure où Aristote identifie dans la troisième forme, et en particulier dans certaines de ses occurrences, l'amitié morale entre des hommes vertueux, semblables et égaux entre eux, la forme excellente de la filia, dans la mesure où elle satisfait à l'exigence de perfection, de complétude, comme de ce quoi qui est choisi en soi et non en vaut d'autre. Moi, je pense que ce n'est si l'on est capable de rendre compatible cette dimension descriptive et évaluative que l'on peut alors rendre compte du rôle que la notion de filia joue également dans le cadre de l'analyse aristotélicienne de la constitution des différentes formes de communauté qui sont à la base de la polis. En effet, si l'on suppose que la filia n'est que la parfaite parmi les hommes vertueux, la troisième forme, celle qui satisfait au plus haut degré les exigences constitutives de similitude et d'égalité, alors la doctrine de la filia doit sembler absente au début de la politique, où la famille, le village et la polis sont analysés comme un ensemble de relations de koinonia, motivées par l'utile, le plaisir ou le bien, qui inclut également des relations entre inégaux, hommes-femmes, parents-enfants, maîtres-esclaves. Au contraire, selon Aristote, pour chacun des trois formes de filia identifiées dans la Éthique Nicomaque, les partenaires peuvent se trouver soit dans une relation d'égalité par rapport aux capacités fondamentales et à la valeur morale, soit dans une relation de différence et de supériorité de l'un sur l'autre, c'est-à-dire où l'un commande sur l'autre. Cette dernière peut encore être qualifiée de relation de filia tant qu'elle satisfait à l'exigence de similitude et d'égalité, au moins dans un sens proportionnel. Seule la relation avec l'esclave est problématique de ce point de vue. En ce sens, je veux dire que les relations de filia comprennent également des interactions réciproques, asymétriques, impliquant des relations d'autorité et même de négativité, on pourrait dire. Mais je vais sur ça plus loin. Pour cette raison, la doctrine de la filia, en tant qu'analyse de la disposition qui établit le lien communautaire et donc le lien social, peut être lue comme une analyse de la structure intersubjective de ces relations constitutives de la communauté sociale et politique, relations réciproques qui peuvent être aussi bien entre égaux qu'entre inégaux, aussi bien symétriques qu'asymétriques, ce qu'Aristote expose au début du premier livre de la Politique. D'autre part, la dimension évaluative de la théorie de la filia joue un rôle dans la justification de la légitimité de l'autorité sociale des supérieurs sur les inférieurs et donc de l'autorité politique. Et ce qui est précisément ce type d'autorité réciproque, l'autorité politique, exercée entre ceux qui peuvent atteindre au plus haut degré les exigences de similitude et d'égalité incarnées dans la forme achevée de la filia. Bon. Je vais laisser de côté ici Aristote pour en venir à Hegel et je vais maintenant aborder le passage qui mène d'Aristote à Hegel. En quel sens la perspective hegélienne peut-elle nous aider à articuler le contenu de la doctrine de la filia? D'abord, je pense parce que Hegel met explicitement en lumière la structure des reconnaissances qui est propre à l'interaction des filias, c'est-à-dire la structure de reconnaissance qui est déjà implicite dans l'analyse aristotélicienne. Cela apparaît avant tout dans la manière dont Hegel traite l'amitié et l'amour. Robert Williams a accordé une attention particulière à cet aspect dans le cadre d'une interprétation qui, partant de la traduction de philia par amour, tant néanmoins à identifier amour et amitié, ce que je ne vais pas accepter, mais je pars de là.
Ainsi, par exemple, dans la phénoménologie de l'encyclopédie, dans le parti de la section sur la conscience de soi, où Hegel analyse la dynamique de l'anerkennung, Hegel s'attarde sur la conscience de soi universelle, entendue comme connaissance affirmative du soi dans l'autre soi, c'est-à-dire une forme de relation à soi qui se constitue à travers le processus de reconnaissance mutuelle et qui a une structure, cette structure. À cet égard, dans la Merkung du paragraphe 436, Hegel écrit, c'est la première citation que vous trouvez sur le fichier, ce reflet universel de la conscience de soi, le concept qui, dans son objectivité, est connu comme subjectivité identique à elle-même et par conséquent universelle, est la forme de conscience de la substance de chaque spiritualité essentielle. La famille, la patrie, l'État, ainsi de chaque vertu, de l'amour, de l'amitié, de la valeur militaire, de l'honneur et de la renommée. Donc, ici, c'est au moins un cas, la structure de la reconnaissance de l'amitié sont mises en relation. Dans un sens similaire, dans l'addition au paragraphe 7 de l'introduction des principes de la philosophie du droit, l'ouvrage dans lequel Hegel expose sa théorie de la constitution de la communauté sociale et politique, là, Hegel indique l'amitié et l'amour comme exemple de disposition affective constitutive de la sphère sociale du Geist. Ainsi, Hegel écrit, c'est la deuxième citation, mais nous avons déjà cette liberté sous forme de sentiments, par exemple dans l'amitié, par exemple dans l'amitié et l'amour. Ici, on n'est pas unilatéral en soi, mais on se limite volontairement par rapport à autre chose, mais on connaît dans cette limitation comme étant soi-même. Dans la détermination, l'on n'a pas besoin de se sentir déterminé, mais tout en ayant la considération de ce qui est autre en tant qu'autre, on a en cela, pour la première fois, son propre sentiment de soi. Hegel voit ainsi dans les différentes instances de la philia, amour, amitié, mais aussi honneur, renommée, des exemplifications d'une même structure qui est la structure de la reconnaissance. Il nous montre finalement que les interactions de philia peuvent être analysées comme des interactions de reconnaissance, comme des exemples de relations de reconnaissance mutuelle. Là, cette focalisation sur la structure de reconnaissance de philia nous permet, je pense, de mettre d'abord en évidence deux aspects de l'analyse de la philia par Aristote. Tout d'abord, comme l'a souligné Paul Ricoeur, il faut souligner la découverte aristotélicienne de la mutualité ou de la réciprocité comme aspect constitutif de la philia, où je voudrais faire remarquer que cette mutualité ou réciprocité n'est pas nécessairement symétrique, comme je l'avais dit. Cet aspect réapparaît avec force dans la conception hegélienne de la reconnaissance mutuelle, une réciprocité qui, pour Hegel, se produit même lorsque la relation de reconnaissance n'est pas une relation symétrique entre égaux. En second lieu, la présence dans l'analyse de la philia d'Aristote de la structure du dédoublement, de doublement, ce qu'Hegel appellera Verdoppelung, et qui est un élément clé dans l'analyse de la constitution de la reconnaissance de la conscience de soi dans la phénoménologie, où le moment du dédoublement et du miroir dans l'autre est vu comme un moment nécessaire pour que s'établisse une relation consciente de soi. C'est un aspect qui ressort fortement aussi chez Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, mais aussi dans l'éthique à Eudème et dans les Mania Moralia. Revient plusieurs fois Aristote sur la question de l'ami comme autre moi, allos autos. L'ami en fait est un autre moi. Aristote ne se contente pas de montrer comment se manifeste dans l'amour et l'amitié la structure du miroir mutuel. Il soutient également que les deux partenaires, il serait mieux parler de partenaires de filia que d'amis, parce que je dis l'amitié est un cas de filia. Et il soutient également que les deux partenaires se reconnaissent dans l'autre comme dans une image d'eux-mêmes. Dans les Mania Moralia, Aristote exprime aussi explicitement l'idée que la connaissance de soi et la conscience de soi ne sont pas constituées indépendamment de la relation du miroir mutuel. Une idée que le chapitre sur la conscience de soi dans la phénoménologie réarticulera fondamentalement dans le contexte d'une analyse du processus de reconnaissance. Bon, si cette reconstruction, qu'il faudrait bien surmotiver en détail, avait sa propre plausibilité, alors elle permettrait à l'envers de lire la conception hegélienne de la reconnaissance sous un nouvel angle, comme une articulation moderne de la conception aristotélicienne de la philia. Ce n'est peut-être pas un hasard si dans l'interprétation de la théorie hegélienne de l'Anerkennung, un problème analogue à celui qui affecte l'interprétation de la philia aristotélicienne s'est posé. Car d'une part, Hegel, dans la phénoménologie, analyse éminemment les relations de reconnaissance réciproque asymétrique entre inégaux, la dialectique ma maître-serviteur, par exemple. D'autre part, il part du concept pur de la reconnaissance comme d'une forme de relation réciproque entre égaux. D'où la tentation pour beaucoup de réduire la reconnaissance à un seul des deux côtés, en mettant l'accent sur la dimension asymétrique, c'est le cas d'Alexandre Kojève, ou en mettant l'accent sur la notion évaluative de reconnaissance mutuelle, le concept pur de reconnaissance, et en finissant ainsi par réduire la théorie de l'Anerkennung à une doctrine normative de l'égalité morale. Mais dans son sens plus général, cependant, la conception hegélienne de reconnaissance est plutôt une analyse de la microstructure des relations constitutives de la vie sociale et donc, du point de vue de l'individu, des dispositions dont il doit être doté pour interagir avec les autres individus et ainsi organiser et constituer un monde social. Et c'est pour cette raison que les dispositions de reconnaissance peuvent générer à la fois des interactions réciproques, majoritairement asymétriques, et des relations réciproques asymétriques, dans certains domaines qu'Hegel, au cours de son itinéraire, a de plus en plus restreint. Bon, moi, maintenant, je vais à la relation entre amour et philia et ensuite sur les dispositions. L'amour et l'amitié élective, comme nous l'avons dit, ne sont que deux cas particuliers et distincts de la structure plus générale de la reconnaissance. Il ne faut pas identifier reconnaissance avec amour et amitié. L'amitié et même la philia avec amour et amitié. L'amitié comprise dans ce sens est pour Hegel une vertu particulière au même titre que l'amour et en ce sens une instance spécifique d'une relation de reconnaissance. C'est dans cette option que nous pouvons examiner la critique de Fries par Hegel. Dans la foreide des principes de philosophie du droit, Hegel, polémiquant avec Fries, attaque amèrement les positions que place l'amitié, la Freundschaft, comprise dans un sens sentimental et moral, comme fondement du lien politico-social. Tout cela, selon Hegel, aboutit à faire s'effondrer cet édifice de culture dans la bouillie du cœur de l'amitié et de l'enthousiasme. Je cite de la traduction de Jean-François Kervégan. La critique de Fries ne concerne donc pas la notion de philia dans son sens aristotélicien large, mais plutôt la tendance moderne à lire la philia en termes exclusivement moraux, en laissant tomber son noyau de théorie sociale. Hegel reprend, ma thèse, au contraire, comme nous le verrons, dans le terme de sa conception des Gesinnung comme structure de reconnaissance. Alors, d'une part, comme nous l'avons vu, c'est dans la théorie de la reconnaissance telle qu'elle est exposée non seulement dans la phénoménologie, mais telle qu'elle est également présente dans les autres ouvres majeures, qu'Hegel développe un niveau de l'analyse abstraite de la microstructure des dispositions de philia. D'autre part, nous devrions nous attendre, si nous prenons particulièrement en compte les principes de la philosophie du droit, comme l'œuvre qui expose la conception hegélienne de la communauté sociale, nous devrons nous attendre à trouver également d'autres correspondants fonctionnels de la philia. En particulier, et oui, je viens à ma thèse principale, c'est dans la conception de la Gesinnung, de la disposition ou disposition d'esprit, qu'Hegel reprend la question de la philia sur un plan plus général, au moins le plan de la philosophie du droit. Les individus, pour pouvoir participer à la vie éthique, à l'éthicité en tant qu'ensemble de sphères d'interaction institutionnalisées, doivent en effet, pour Hegel, être dotés des dispositions subjectives qui, en outre, se développent à leur tour à travers le processus de formation qui nous entreprend pour devenir acteurs d'une Sittlichkeit. En ce sens, au paragraphe 515 de l'encyclopédie, Hegel écrit: La disposition des individus, c'est le troisième citat, la disposition des individus, la Gesinnung, est la connaissance de la substance et de l'identité de tout leur intérêt avec le tout. Et la confiance, la disposition véritable éthique, consiste en ceci, que les autres individus se connaissent et ne sont réels que dans cette identité. Mais les Gesinnungen sont en fin de compte pluriels, au pluriel, que la Gesinnung se dit au pluriel comme la philia, sont des dispositions affectives accompagnées de confiance, et en ce sens des dispositions sociales. Un certain niveau de confiance est, comme dans le cas de chaque type de relation de filia, de l'économique au moral, nécessaire pour participer à une forme de vie sociale. Dans cette clé, Hegel, au début de la section sur l'éthique, dans le principe de la philosophie du droit, introduit cette conception de la Gesinnung comme disposition affective, bien que sans la nommer explicitement, dans son analyse du moment subjectif des pouvoirs éthiques objectifs, c'est-à-dire des institutions sociales. Dans le paragraphe 147, il écrit que, d'autre part, elles ne sont pas quelque chose d'étranger au sujet. Celui-ci donne au contraire à leur propos le témoignage de l'esprit, selon lequel elles sont son essence propre et en laquelle il a son sentiment de soi et vit comme dans un élément non distinct de lui, rapport qui immédiatement est encore plus un rapport d'identité que la foi et la confiance elles-mêmes. Ensuite, dans un autre passage d'importance fondamentale pour la structure des principes, à savoir le paragraphe 215-7 qu'introduit la troisième section consacrée à l'État, Hegel confirme la fonction structurelle que la notion de Gesinnung joue par la constitution de l'interaction sociale au sein de la communauté politique et de ses structures institutionnelles objectives. Il écrit, il a son existence immédiate à même la coutume éthique, le cite, et son existence médiatisée à même la conscience de soi de l'individu singulier, à même le savoir et l'activité de celui-ci, tout comme ce dernier, grâce à sa disposition, à sa liberté substantielle en lui, en tant qu'il est son essence, sa fin et le produit de son activité. À cet égard, il convient de noter que, d'une part, la Gesinnung, en tant que disposition subjective de l'action, a la structure de lexi aristotélicien. Il ne s'agit pas seulement d'une disposition accompagnée d'affect, mais en même temps d'une disposition habituelle qui a la forme, comme Kierkegaard, Jean-François Kierkegaard avait noté, bien noté il y a plusieurs années, d'une aptitude durable, une aptitude acquise comme une habitude, une disposition habituelle d'interaction. D'autre part, la structure de la Gesinnung, comme nous l'avons vu en référence au paragraphe 515 de l'encyclopédie, est explicitée par le vocabulaire de la reconnaissance en tant que disposition intersubjective. Et cette explication de la filia par la théorie de la reconnaissance est liée à la transformation moderne des relations sociales et à la conception moderne de la liberté individuelle. Comme l'écrit dans la Merkung au paragraphe 503 de l'encyclopédie, les déterminations éthiques du sujet moderne doivent trouver l'assentiment, la reconnaissance en Erkennung, voire la justification, Begründung, dans son cœur, dans sa disposition, Gesinnung, sa conscience, sa perspicacité. En ce sens, on peut dire que la notion de Gesinnung est bien liée, est bien le lieu où, comme encore Jean-François a soutenu, où Hegel tente de réconcilier la tradition aristotélicienne de l'éthicité avec la subjectivité moderne. Et cette réconciliation est rendue possible, selon la thèse que je présente, exactement par le fait que la notion de Gesinnung est une reconstruction par la théorie de la reconnaissance de la structure de la filia. En ce sens, la théorie de la reconnaissance est le vocabulaire moderne qui rend explicite le contenu implicite de l'ancienne notion de filia. La Gesinnung, en tant que disposition intersubjective qui sous-tend la vie éthico-politique et sa structure institutionnelle objective, est ensuite qualifiée en fonction des contextes concrets d'interaction dans les principes de la philosophie du droit. Il y a plusieurs concrétions de la Gesinnung. En ce sens, c'est dans l'analyse de la famille, de la société civile et de l'État que la Gesinnung éthique, comme l'affirme Hegel au paragraphe 207 des principes, parlant de la ethische Gesinnung comme Rechtschaffenheit, c'est là qu'elle peut être déterminée dans son contenu, dans la mesure où elle est constituée par des schémas de reconnaissance qui sous-tendent ce cercle concret d'interaction. Ainsi, par exemple, dans l'analyse de la famille, la Gesinnung se qualifie comme une disposition reconnaissante d'amour et d'intimité entre époux. Dans l'analyse de la société civile, dans les dispositions mutuelles telles que la droiture, la confiance, l'honneur ou la loyauté, et dans la sphère de l'État, comme la Gesinnung qualifiée comme politique du patriotisme et de la vertu civique. Comme la filia, la Gesinnung éthique se dit au pluriel de plusieurs manières, et dans les différentes formes de Gesinnung, nous trouvons les spécificités des différentes configurations que la filia peut assumer au sein des relations éthiques et politiques. En ce sens, lorsque Hegel, dans la section sur le droit étatique interne, parle de la notion de Gesinnung politique, plutôt qu'introduire une vertu politique spécifique, ce qu'il fait, c'est de qualifier le sens structurel de l'action éthico-politique, le sens, c'est-à-dire structurellement éthico-politique de la notion de Gesinnung. À cet égard, au paragraphe 268, il écrit que la disposition politique, de manière générale, le patriotisme, en tant que certitude se tenant en vérité, une certitude simplement subjective ne surgit pas de la vérité, n'est qu'en opinion, et en tant que vouloir devenu habitude, n'est qu'un résultat des institutions qui subsistent dans l'État. Donc, en caractérisant ici la disposition politique comme patriotisme, Hegel, certes, utilise un terme moderne, mais il s'adresse ainsi en même temps des interprétations habituelles du terme est écrit. Par patriotisme, on entend fréquemment seulement l'aptitude à des sacrifices et à des actions extraordinaires. Mais essentiellement, il est la disposition qui, dans la situation et le contexte de vie habituel, est accoutumée à savoir que la communauté est l'assise substantielle et le fond. Donc, la notion de Gesinnung, politische Gesinnung, dans ce sens, ce n'est pas une vertu particulière, mais plutôt rendre explicite le rôle constitutif que la Gesinnung, en tant qu'exil, disposition habituelle, joue dans la vie collective et les relations vitales, dans la vie quotidienne. En cela, nous pouvons trouver dans cette analyse de la notion de disposition politique une reprise de l'idée aristotélicienne selon laquelle le koinonéi, la forme d'action sociale par laquelle nous établissons des relations de communauté, est coextensive au philéi. La filia consiste en une communauté. En d'autres termes, dans la transcription hegélienne, les Gesinnungen sont à la base de la structure communautaire de la vie collective. Et ça, c'est ce que veut dire ce patriotisme. En particulier, l'analyse de la disposition politique comme patriotisme semble être une transcription moderne des considérations aristotéliciennes sur le rôle politique de l'amitié, de la filia comme concorde. Dans ce sens, je pense que c'est dans ce sens qu'on pourrait lire la déclaration d'Aristote selon laquelle il semble donc que ce soit la filia qui tient la cité et que le législateur s'en occupe plus que la justice. Bien sûr, d'autres aspects plus complexes de la dimension politique de la filia apparaissent ici, que je devrais laisser de côté, en particulier les liens entre la filia d'Aristote et la théorie de la justice. Des aspects dont je ne pense pas cependant qu'on puisse comprendre pleinement la pertinence si l'on fait abstraction de l'analyse de la disposition des filias comme constitutive du lien social. La filia, c'est ce que assure la cohésion de la cité, non seulement dans un sens ascendant, bottom-up, dans la mesure où elle est la disposition fondamentale qui constitue le lien social, mais aussi à faire avec la cohésion de la cité dans un sens descendant, top-down, en tant que concorde politique dans laquelle se réalise la forme la plus parfaite et plus complète de filia. Ce qu'Hegel appelle patriotisme est une certaine forme de disposition subjective de filia de citoyenne qui est la base de cette forme de concorde fondamentale qu'un État doit être capable d'avoir, même s'il existe des désaccords importants et substantiels à d'autres niveaux. Bon, en conclusion, si j'ai encore quelques minutes, je vais voir alcune objection à cette thèse. Examinons quelques objections possibles à cette stratégie interprétative. Il est sans doute vrai que pour Hegel, le principe moderne de subjectivité établit une distinction claire entre l'état ancien et l'état moderne, dans la mesure où, selon Hegel, la conception ancienne, et donc aussi celle d'Aristote, n'était pas en mesure de reconnaître pleinement le rôle de la subjectivité dans ces diverses expressions. Mais comme nous l'avons vu, le vocabulaire de la reconnaissance a précisément la fonction de transcrire la notion de filia d'une manière compatible avec le sens de la subjectivité moderne. Première objection. Deuxième, il est également vrai que pour Hegel, une autre distinction est constituée par la centralité dans la vie étatique moderne de l'intérêt individuel et de l'interaction économique motivée par l'égoïsme. Un autre élément qui ne trouvait pas de reconnaissance au niveau politico-social dans le modèle aristotélicien, qui n'attribuait aucun rôle à la société civile au sens hegélien. Cependant, il me semble que ces deux observations ne peuvent pas être utilisées en faveur de la thèse soutenue par exemple par Ferrari ou Sanchez, selon laquelle chez Hegel, la filia ne pourrait pas être à la base de la vie de l'État, comme elle l'était chez Aristote. D'une part, nous avons vu comment la filia inclut parmi ces sphères l'interaction motivée par le profit et donc aussi l'interaction économique. Ce n'est donc pas la théorie de la filia en soi qui marque la distance de Hegel par rapport à Aristote, mais plutôt une certaine évaluation de l'activité économique qui dépend de facteurs externes. D'autre part, on peut montrer que le Gesinnung, en tant que racine subjective de l'éthicité, joue un rôle fonctionnel analogue à la filia. Ce sont des formes concrètes de filia stabilisées dans un certain contexte social et politique. Enfin, une autre objection possible à la lecture de la filia en termes de reconnaissance, et donc de Gesinnung en tant que disposition concrète de reconnaissance, peut être tirée de l'affirmation de William selon laquelle la reconnaissance chez Hegel est conçue de manière dialectique, comme quelque chose qui est produit et qui est généralisé ou universalisé, en passant par la négativité du conflit et de la domination, alors qu'au contraire, la filia chez Aristote concernerait des relations isonomiques entre égaux en puissance, les amis vertueux. Mais, comme l'a également noté à juste titre Sabine Tortorella, les interprétations qui tendent à identifier filia reconnaissante finissent souvent, d'une part, pour appauvrir la notion aristotélicienne de filia, et d'autre part, par réduire la reconnaissance hegélienne, comprise comme amitié et amour, à une dimension ironique et positive. Mais nous avons vu cependant que la filia aristotélicienne, du moins si nous en faisons la lecture que j'ai donnée, ne s'identifie pas à l'amour ou à l'amitié élective entre égaux et n'exclut pas les phénomènes de négativité, d'asymétrie. Donc, en ce sens, ce qui est particulariste chez Aristote n'est pas tant la conception générale de la filia, mais que la conception évaluative d'une filia accomplie, limitée à un cercle restreint de mâles athéniens, et méditerranéen harmonieuse. D'autre part, il est vrai enfin qu'Aristote passe à côté de l'idée d'une universalisation progressive de la reconnaissance par le biais du conflit dialectique. Il ne semble pas reconnaître un quelconque rôle progressif à la négativité comme moteur moderne d'universalisation. Bon, en conclusion, ce que j'ai soutenu dans la première partie de cet exposé, c'était que la théorie de la filia chez Aristote doit être lu par rapport à cette théorie de l'action, en particulier de l'action sociale, dont nous sommes capables en tant qu'agents politiques. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de traduire filia par amour, comme le suggère plutôt Gregory Vlastos, Martha Nussbaum et d'autres. Deuxièmement, par rapport à Hegel, j'ai argumenté premièrement que, comme la filia ne correspond pas à l'amitié au sens moderne, il ne faut pas penser et puiser la question de la filia chez Hegel en ne considérant que les passages où il parle de Freundschaft, d'amitié qui sont significatives, mais qu'on sent toujours une vertu particulière. Par conséquent, en cas particulier, nous devons être prêts à trouver ailleurs le phénomène qui recouvre la filia, et plus généralement, là où Hegel analyse les formes de disposition à l'action. Troisièmement, j'ai fait valoir que chez Hegel, l'amitié et l'amour sont souvent mentionnés ensemble. C'est pourquoi certains interprètes en sont venus à les identifier avec la reconnaissance et entre autres. Ce n'est pas par hasard, cependant, qu'Hegel cite l'amitié et l'amour comme deux exemples distincts. En particulier, il s'agit d'instances d'exemplification d'une même structure plus générale de reconnaissance sociale, c'est-à-dire des dispositions à l'interaction accompagnées d'affection. En ce sens, Hegel ne les identifie pas, mais il saisit la structure de la filiale. Hegel saisit ainsi la structure fondamentale de reconnaissance de ce que Aristote l'aurait appelé philia, et dont l'amitié et l'amour, au sens moderne, sont que deux cas particuliers. En ce sens, Hegel nous permet d'articuler la structure de reconnaissance de la disposition de philia. Finalement, j'ai argumenté que particulièrement significative en ce sens de ma thèse est la doctrine de la Gesinnung, qui sont la base de l'éthicité, comprise comme un ensemble de sphères d'interaction institutionnalisées. Les individus, afin de participer à ces sphères, doivent développer des Gesinnungen comprises comme dispositions d'action. La Gesinnungen, donc, en tant que disposition affective accompagnée de confiance, est l'équivalent fonctionnel dans les principes de la philosophie du droit de ce qu'Aristote appelle la philia. Merci, c'était tout.